Et bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps, nous allons commencer notre réunion de ce soir. Pour cela, je vais demander à Papa José de prier pour nous remettre entre les mains du Seigneur.
Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous appelons encore auprès de toi. Comme cela est écrit, que personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Merci pour cet instant mis à part, consacré pour ta parole. Nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par ta volonté. Alors, Seigneur, nous sommes venus les mains vides. Parle-nous, Seigneur, nous avons soif de ta parole. Nous voulons être éduqués, corrigés par ta parole. Comprendre tes pensées éternelles. Mets à notre disposition le Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle, qui nous aide à bien comprendre la volonté du Seigneur et disposer nos cœurs pour que nous soyons toujours obéissants à ta parole. Merci pour la présence de tout un chacun que tu as rappelé aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, que de nous utiliser tous ensemble par le même Esprit de Dieu. Nom d'encore beaucoup de sagesse, d'intelligence et du Saint-Esprit, à celui qui va nous conduire dans cette méditation, Seigneur. Utilise-le ou utilise-la, Seigneur, comme tu veux. Efface en lui ou en elle ses pensées humaines, mais dispose, Seigneur, ton Esprit Saint qui nous parle. Merci pour les grandes choses que tu vas opérer ce soir. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi. Nous te disons Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa José de Paris, pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir devant la présence de notre Dieu dans ce plateau. Nous allons ce soir méditer la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 43. Nous allons lire les 12 premiers versets. Et nous allons demander à Maman Jacqueline des États-Unis de nous faire la lecture, s'il vous plaît.
Amen.
Amen.
Je lis dans Louis II, Ézéchiel 43. 1:12, il m'a conduit à l'entrée à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple en passant par l'entrée qui est orientée à l'est. Il m'a alors enlevé et m'a conduit dans le parvis intérieur. J'ai vu que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. J'ai entendu quelqu'un me parler depuis le temple, tandis que l'homme se tenait près de moi. Il m'a dit, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom, par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil. Les montants de leurs portes près des montants de mes portes. De sorte qu'il n'y avait plus qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi porté atteinte à la pureté de mon saint nom par les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. C'est pourquoi je les ai dévorés dans ma colère. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, si bien qu'ils habiteraient pour toujours au milieu d'eux. Toi, seul homme, décris ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leurs fautes et mesurent le plan. Qu'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses issues, ses entrées. Toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant. Toutes ces formes et toutes les lois le concernant. Mets-les par écrit sous leur voix, sur leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ces formes et toutes les prescriptions le concernant et s'y conforment. Voici la loi concernant le temple. Au sommet de la montagne, tout l'espace qui l'entoure est très saint. C'est la loi du temple. C'était la parole de Dieu. Je m'excuse, ma voix est un peu ronde là.
Non, ça va. Merci beaucoup, ma soeur Jacqueline, pour la lecture. Bien-aimée dans les lumières, merci pour votre présence. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 41, au 43 plutôt, à partir de verset 1 jusqu'au verset 12. Alors là, je vois Papa José qui avait peut-être des difficultés d'entrée, qui vient de nous rejoindre. Papa, je vous donne à vous la commande maintenant. On a juste fait la lecture pour qu'on ne soit pas en retard, ok?
Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Pour la parole. Bien-aimés, nous avons terminé avec les détails sur les dimensions du temple. C'était hier. Aujourd'hui, le prophète voit une chose importante, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu montre la présence de Dieu au sein du peuple de Dieu à travers, bien sûr, le temple. Et comme nous avons lu, le Seigneur exige quand même quelque chose. Il rappelle ce qui s'était passé avec ce peuple qui, à un moment donné, a insulté le Seigneur par son comportement. Sans tarder, je dois m'arrêter ici pour remettre la parole à nous tous de pouvoir méditer sur ce passage important qui nous donne de la joie parce que nous étions privés de la gloire de Dieu et la gloire de Dieu est de nouveau là. Merci. Bon, nous...
Question 5.
Oui.
Question 5.
Oui.
Non, je dis papa, pardon. Question 5 et 7.
Oui, merci beaucoup. Question 5 et 7. 5, c'est, y a-t-il une promesse? Y a-t-il une promesse? Et 7, c'est, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Voilà. Merci beaucoup, ma sœur.
Amen.
Ouais. N'oubliez pas d'être très bref ou brève quand on parle pour que nous puissions, nous qui sommes là, partager cette parole ensemble. Oui.
Oui,
merci.
Oui, papa, je peux d'emblée commencer.
Oui.
Oui, le verset 1. Nous pouvons dire, après avoir été, disons, toujours de mesure sur mesure, maintenant, la même personne-là le conduisit à la porte. On dit à la porte qui était du côté de l'Orient, dans la version de la Master qui venait de lire, c'est à côté de l'Est. Et si je peux même prendre les deux versets, voici la gloire des dieux d'Israël s'avancer de l'Orient. Ouh! Ta voix était... pareil au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Ça, c'est magnifique. Quand je lisais, la sœur lisait, j'entendais, je dis, mais ça, c'est très beau et très qui réussit vraiment de voir des choses comme ça, si on peut le voir, heureusement. Il a eu la grâce, toujours dans ses visions, de voir la gloire qui venait de côté de l'Est, côté de l'Orient, pour dire que notre Dieu réellement est un Dieu qui marche. Il peut venir de l'Orient ou de l'Occident, mais c'est lui qui est Dieu. Et ce qui c'était formidable, c'est que la voix était comme le bruit des grands eaux. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre à côté des grands eaux quand ça descend. Donc, il y a des bruits. Vous entendez ce bruit-là, on dit que c'est le bruit qui semblait, et c'était la gloire de Dieu. Disons, la terre resplendissait de sa gloire. Bien-aimé, moi, je disais, le Seigneur ne donne pas la parole comme ça. Ça, c'est la gloire qui venait dans ce temple. Nous savons que ce temple a été détruit et la gloire de Dieu n'était plus là. Et Dieu rentre. Pour moi, c'est comme une leçon pour dire que peut-être à cause de la situation que j'ai vue, je me dis que la gloire de Dieu n'est pas là à cause de ceci, cela que j'ai vu. Mais aujourd'hui, Dieu me rassure qu'il va manifester sa gloire dans ma famille. Mmh. Dans ta famille, pourquoi il est dans le fumée. Amen.
Amen. Mmh. Merci beaucoup. La gloire de Dieu était certainement partie. Lorsque nous regardons au chapitre 10, verset 19, il est dit ceci, « Ceux-ci déployèrent leurs ailes, il parle ici des chérubins, pour partir. Et je les vis s'élever de terre, eux, les roues, eux, en même temps qu'eux. Ils s'arrêtèrent près de la porte orientale du temple et la glorieuse présence du Dieu d'Israël brillait au-dessus d'eux.
Amen.
Les chérubins sont partis, c'est le signe que le Seigneur, sa présence glorieuse, est partie. Et au chapitre 11, le verset 23, il est dit, « Ensuite, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva au-dessus du centre de la ville et alla s'arrêter sur la montagne située à l'est de Jérusalem. » Oui, certainement, la glorieuse présence du Seigneur, c'était évanoui, c'était parti parce que le peuple vivait dans le péché et le Seigneur ne pouvait pas supporter ce péché-là. Sa présence glorieuse a quitté le temple, sa présence est partie.
Amen.
Et maintenant, après avoir montré tout ceci, sa présence revient. Sa présence revient. C'est pour dire que le Seigneur Dieu ne nous oublie pas. Il nous oublie pas. Oui, oui. C'est comme papa, c'est comme maman. Hein? Un enfant peut faire du mal. Bon, on peut dire, bon, voilà, Kendanayo, hein, allez. Ou bien, bon, il ne faut pas m'appeler. Mais finalement, tu vas revenir, tu dis, viens, donne-moi ça, donne ça. C'est comme ça que Dieu nous traite, bien-aimés. Il ne s'éloigne pas pour toujours parce que il connaît que nous sommes fragiles. C'est pour cela, sa présence revient de nouveau ici, amen, dans le temple. Merci.
Oui, papa, il n'y a pas de mail, le modérateur peut parler en attendant.
Oui, oui. Et nous prenons directement le quatrième verset. La glorieuse présence du Seigneur entra dans le temple en passant par le porche oriental, c'est-à-dire le porche de l'Est. Donc finalement, la glorieuse présence du Seigneur revient. Et le Seigneur entra dans le temple, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. la glorieuse présence du Seigneur qui était partie, cela est revenu, gloire au Seigneur. Le Seigneur continue à aimer son peuple, continue à nous aimer, à m'aimer, à aimer toute personne qui est là, tous ceux qui vont entendre ce message, le Seigneur continue à nous aimer. Merci.
Oui, papa, nous donnons la parole à notre sœur Christine d'Angleterre.
Merci, bien-aimé. C'est juste une petite question pour avoir un peu de précision. Parce que quelque part, la Bible dit que, vous vous rappelez, Jésus est en train de s'entretenir avec la femme samaritaine au puits. Il lui avait dit, le salut vient des Juifs. Alors, j'ai vu le mot Orient revenir ici dans ce texte plusieurs fois. Je vois du côté de l'Orient, verset 1, verset 2, je vois encore s'avancer de l'Orient. Au verset 3, je vois encore l'Orient. Alors, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que c'est à cause de cette phrase-là que Jésus avait prononcée que cette gloire vient de l'Orient et puis je vois cette porte qui donne sur l'Orient, on a mis beaucoup d'importance sur cette porte. Est-ce que c'est à cause de cela? Parce que le salut, effectivement, vient des Juifs. Jésus est né parmi les Juifs. Est-ce que c'est à cause de ça?
Ok. Nous pouvons dire directement que, oui, le verset ou bien la parole du Seigneur Jésus est tel que tu l'as rapporté, parce que il y avait comme une petite incompréhension, la femme est là, elle ne voulait pas que le Seigneur lui demande de l'eau, et puis elle insistait en disant que ce puits nous appartient, et finalement le Seigneur a dit que le salut vient de Juifs, parce que elle voulait insister à ce que le Seigneur comprenne que eux, les Samaritains, avaient donc Jacob comme leur ancêtre. Ils voulaient souligner sur le puits que Jacob a creusé. Mais Jésus de dire, le salut vient de nous, vient des Juifs. Oui, c'est comme s'il disait, mais ce Jacob-là, dont vous dites notre père, notre ancêtre Jacob, mais Jacob, c'est un Juif. Voilà. Ouais. Oui. Alors, en ce qui concerne ce passage, je ne pense pas que cela a des rapports, parce que quand j'ai lu au chapitre 11, verset 23. Verset 23. Ensuite, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva au-dessus du centre de la ville et alla s'arrêter sur la montagne située à l'est de Jérusalem. Donc, la glorieuse présence a quitté le temple. Et elle est arrêtée sur la montagne. Et ils ont situé la montagne à l'est de Jérusalem. Donc, ici, c'est purement les indications géographiques. Ça n'a pas vraiment un sens profond. Oui, c'est géographique. Oui.
Merci.
Oui.
Je voudrais ajouter, c'est vrai, c'est géographique, parce que quand nous voyons, que ce soit les deux chapitres que vous avez donnés, que ce soit les chapitres que nous lisons, la gloire est vers l'est, l'Orient, et quand ça revient,
c'est
la même direction, juste
pour
de la direction, comme quand on disait que qu'est-ce que vous regardez, c'est Jésus qui est monté de la même façon qui descendra. Donc, c'est pas dit, c'est juste géographique, quoi. Merci. Oui, papa, il n'y a pas de main.
Pas de main.
Oui.
Le cinquième, oui, tu voulais?
Oui, je peux prendre le cinquième. On dit, alors l'esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Nous avons parlé des parvis intérieurs. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison.
Voilà.
Quand nous voyons le parvis intérieur, là, bien-aimé, c'est là, on dit que la gloire remplissait la maison. Moi, j'étais en train de penser, vous souvenez-vous, la fois passée, papa nous a amené à Apocalypse 21, comment est-ce que ce temple-là était, la gloire de Dieu était, il n'y avait pas besoin de lampe ou de quoi, le Seigneur lui-même était là, il n'y avait pas une maison qu'on construit, mais c'est lui-même sa présence. Et ici, le temple remplissait, là, sa gloire remplissait le temple. Donc, pour dire que même à ces temps-là, sa présence va remplir tous les lieux, donc on n'a même pas besoin de quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment, ça réjouit mon cœur pour te dire, pour dire que Seigneur, garde-moi fidèle pour que je ne rate pas ces temps d'avenir que nous pouvons voir ça et décrit ici. Amen.
Amen. Oui. Merci beaucoup. Et le verset suivant, après avoir vu, il a entendu. Le verset 6.
Amen.
J'entendis quelqu'un me parler depuis l'intérieur du temple. Alors que l'homme qui m'avait conduit était toujours à mes côtés. Voilà. L'homme qui l'avait conduit, qui mesurait, il est toujours à ses côtés. Mais il entend une voix là-bas à l'intérieur du temple.
Amen.
Oui. Donc, c'est quelque chose. Il dit, mais c'est quoi? L'homme est ici avec moi. J'entends une voix là-bas. C'est quoi? Tout ça, c'est à cause de la présence de Dieu dans le temple. Oui. À cause de la présence de Dieu dans le temple et sa présence. C'est lui-même, en quelque sorte. Oui, c'est lui-même. Et ce n'est pas étonnant d'entendre une voix, même si la personne n'a pas bougé, mais comme ce sont les manifestations divines, nous ne pouvons que dire c'est la voix de Dieu. Voilà. Merci.
Oui, papa, il n'y a toujours pas de mais. Je voulais... Oui. Toujours parce que je ne voulais pas garder la parole pour lire Apocalypse 21, 23, là, pour dire que la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait. Amen. Donc, c'est ce que nous voyons ici, la gloire de Dieu dans les temples. Et le verset 6, on nous dit, là, si j'ajoutais sur le verset 5, comme vous avez dit là, vous avez parlé du verset 6, moi je suis au 7. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je posséderai, je poserai la plante de mes pieds. J'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Ça vraiment c'est une promesse. Dieu est en train de parler pour donner une promesse qu'il posera la plante de son pied là-bas, de ses pieds là-bas, et il habitera éternellement. Ça, c'est un Dieu qui parle. Et moi, je vois cette promesse-là dans ce sens que quand nous acceptons le Seigneur comme dans notre vie, Dieu vient vivre en nous. Par il y a le sceau du Saint-Esprit qui ne va plus nous quitter. À moins que vraiment, je ne sais pas, mais il ne va plus nous quitter. Donc, ça, c'est la promesse de Dieu qui donne à cet endroit. Donc, si vous voulez répondre à cette question, quelle est la promesse? C'est que Dieu va être au milieu de son peuple éternellement. Et c'est son vrai désir. Amen.
Amen. Oui, oui. Et cette promesse continue. Ni le peuple d'Israël, ni ses rois, ne déshonoreront plus le nom que je porte en vivant la débauche et en enterrant ici les corps de leur roi défunt. On s'arrête, la phrase continue, mais nous arrêtons là. Il y a une chose, je dirais deux, sur lesquelles le Seigneur revient. Il dit, ni le peuple d'Israël, ni ses rois, ne déshonoreront plus le nom que je porte en vivant dans la débauche. La première chose, oui, que le roi, le peuple, tout le monde vit dans la débauche. Et, oui, oui, il continue, et en enterrant ici les corps de leurs défunts. Donc, Dieu habitera pour toujours avec le peuple, et à condition que le peuple ne vive pas dans la débauche et que les rois ne puissent pas enterrant ici le corps de leur roi défunt. Donc, cet endroit-là, où est placé le temple, il y a eu des choses que Dieu n'aimait pas. Et il ne veut pas que le peuple et le roi reviennent sur ce qui s'était passé.
Mmh.
Ouais. Hein. Ça.
Oui, papa, nous donnons la parole à Sœur Christine d'Angleterre, s'il vous plaît.
Oui.
Oui, merci bien aimé pour la parole. Je suis là au verset 7. Et vous savez que c'est une promesse que le Seigneur fait à son peuple ici. Mais je vois un autre aspect. Rappelez-vous, au chapitre 40, nous étions en train de parler de cet homme qui avait l'aspect de l'airain et qui avait dans la main un cordon. On se demandait qui pouvait être cette personne. Et voilà que cette personne se révèle ici en parlant encore au prophète. Et ce qui m'a fait, qui a attiré mon attention, c'est parce qu'il a prononcé encore une fois « fils de l'homme ». Et nous avons vu comment il appelait, tout au long de ce chapitre, comment il appelait Ézéchiel « fils de l'homme ». Et cela m'amène à croire que c'était le Seigneur lui-même qui appelait Ézéchiel comme ça « fils de l'homme » et qui est en train de lui montrer toutes ces choses. Bien aimé, cet homme a dit à Ézéchiel que c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Je suis bien aimé, mais pousse à dire que ça sera dans le futur. Et c'est la confirmation des paroles que Papa José nous avait prononcées lorsqu'il essayait d'expliquer, comme le texte est un peu difficile, lorsqu'il disait que ce temple, ce n'est pas un temple physique qu'on va bâtir avec des briques, des tôles et tout ça, mais ça sera un temple dans le futur parce que le Seigneur, nous sommes allés dans le livre d'Apocalypse pour confirmer cela, et le Seigneur sera lui-même au milieu de son peuple. Et voilà la confirmation ici. Et ça sera le lieu de son trône, ça sera le lieu où il posera la plante de ses pieds. Et c'est là qu'il va habiter éternellement au milieu de son peuple. Donc c'est la confirmation bien-aimée pour dire que la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est la même chose partout. Elle est toujours d'actualité bien-aimée. Donc pour moi, j'ai trouvé vraiment c'est la confirmation que c'était le Seigneur qui parlait à son prophète, qui parlait à propos de son peuple aussi et qui lui montrait les choses qui vont venir dans le temps lorsque nous vivrons avec lui éternellement. Merci.
Merci. Oui.
Oui, papa, je voulais dire qu'il n'y a pas de mème, il n'y a aucune personne qui est un mythe sauf le frère Bonny. Donc, les gens peuvent parler et demander la parole. Sinon, le modérateur peut continuer avec le verset 8.
Le verset 8 nous dit ceci. Les rois, parce que l'idée continue, c'est toujours le Seigneur qui parle. Les rois ont placé les seuils et les mentons des portes de leur palais juste à côté des seuils et des mentons des portes de mon temple. Il n'y a qu'un mur entre ma maison et la leur. Ils ont déshonoré le nom que je porte en commettant les actions abominables. C'est pourquoi, dans ma colère, je les ai exterminés. Ici, c'est toujours le Seigneur qui parle en se référant à l'ancien temple. L'ancien temple était côte à côte, presque côte à côte avec la maison du roi. Ici, on parle du roi Salomon. Le temple n'était pas loin de la maison du roi. Alors, désormais, la distance va s'élargir.
Mm-hmm.
La maison de Dieu ne sera pas à côté de la maison du roi.
Mm-hmm.
Ou bien la maison des hommes, si vous voulez. Pas seulement le roi, mais on prend le roi comme homme, il est homme. Et Dieu ne veut pas, pour cette fois où il vient habiter avec eux, qu'il soit côte à côte avec les hommes.
Mm-hmm.
Ouais. Donc, que sa maison ne soit pas côte à côte avec les maisons des hommes, et principalement la maison royale, le palais. Maintenant, les Israélites vont cesser de vivre dans la débauche sous mes yeux. Puisque quand cette maison était là à côté de la maison du roi, tout ce que le roi ou les hommes tout court faisaient était en face du Seigneur qui était dans le temple. Hein, l'ancien temple là, ce n'est pas le temple dont il est question maintenant, mais l'ancien temple. Le Seigneur ne veut pas cette à proximité. On doit s'éloigner. Maintenant, les Israélites vont cesser de vivre dans la débauche sous mes yeux et ils éloigneront de ma présence les cadavres de leur roi. Alors, je demeurerai au milieu d'eux pour toujours. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer pour que le Seigneur reste pour toujours en nous. On peut même parler de notre corps comme le temple de Dieu. Hein, le temple du Saint-Esprit. Nous devons, nous, les humains, qui avons le Saint-Esprit, nous devons vivre dans la sanctification pour que Dieu reste. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, là, nous ne faisons que le chasser. Voilà. Merci. Ok. Quelqu'un d'autre?
Papa, si je peux ajouter quelque chose. Oui, ce que vous venez de dire là, nous avons vu ça hier, comment les chambres étaient séparées. Il y avait des chambres juste pour les serviteurs de Dieu lorsqu'ils étaient en service et lorsqu'ils sortaient, tout ça. Je crois que c'était à cause de ça que le Seigneur a permis qu'on puisse mettre toutes ces chambres-là, qu'il y ait des chambres privées, qu'il y ait des couloirs, tout ce qu'on a vu hier. Alors, je suis là dans le livre d'Apocalypse, je suis en train de regarder, comme nous parlons du futur, comment le Seigneur sera assis sur son trône. Je vois là, il y a une foule, une grande foule de toutes les nations, toutes les tribus. Je suis dans le livre d'Apocalypse 7, au verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, ainsi de suite. C'est pour confirmer ce que vous venez de dire, papa, que Dieu ne sera pas côte à côte avec les hommes. Vous voyez, donc ces gens-là, ils sont autour du trône. Alors que nous avons vu que sur le trône est assis l'agneau, et est assis Dieu, donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et à part eux, nous avons vu qu'il y a des séraphins, il y a les 24 vieillards, il y a les anges, tout ça. Mais les hommes sont un peu plus loin. Ils sont loin de Dieu. Je crois que c'est à cause de ça, parce que Dieu avait dit qu'il ne veut pas habiter avec ces gens-là côte à côte. Il veut vraiment qu'il y ait quand même une séparation entre lui. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie, papa, parce que j'ai suivi ce que vous avez dit dans le verset 8, la raison pour laquelle on a mis ce mur-là. On a fait la séparation. C'est peut-être parce que dans le futur, Dieu sera assis sur son trône, entouré de cette armée céleste. Et puis les gens seront, ici il est dit, ils seront tout autour du trône. Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas.
OK. Bon. Le texte que tu utilises là, que tu évoques, dans Apocalypse, nous pouvons dire que les idées peuvent se ressembler, mais cette vision ici ne fait pas directement allusion à ce que Jean a vu.
Ok.
Oui, ça, il ne fait pas vraiment allusion à ce que Jean a vu. Ici, nous pouvons comprendre que le peuple d'Israël qui est en exil en ce moment-ci, le Seigneur Dieu ne va plus le traiter comme par le passé, c'est-à-dire le traiter à cause de leur vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur a décidé de revenir dans le temple. Bon, le temple ici, ce n'est pas le temple de Salomon, ni même le parler d'un autre temple quelque part, mais c'est tout simplement montrer que Dieu n'est pas contre son peuple qui vivait dans le péché. Le péché qui ont fait de ce peuple les exilés à Babylone. Alors, le Seigneur décide de revenir dans le temple, et ce temple, ce n'est pas le temple de ce que qui Salomon a construit, ce n'est pas ce temple-là. Là, il fait tout simplement allusion que dans ce temple-là était côte à côte avec le palais royal. Alors, le nouveau temple ne sera pas comme ce temple-là. Voilà. Donc, il revient, mais il revient avec une nouvelle attitude. Que les gens dans la débauche ne vivent plus dans la débauche. Et que le roi qui faisait aussi ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu ne le fasse pas. Que le peuple soit un peuple appartenant totalement au Seigneur. Par conséquent, le Seigneur va habiter avec eux. Donc, nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore chez Jean où tu as fait allusion. Oui, oui. Donc, nous sommes toujours dans un temple futur qui n'est pas là, mais qui doit être, selon Dieu, autre que le temple qui était à côté de la maison royale.
Okay.
Voilà.
Merci.
Oui, on prend la suite.
Il n'y a pas toujours de même, papa.
Ok, je vais lire la note sur le verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, la note qui se trouve dans la version Bonne Nouvelle, Français Courant. Le temple décrit par Ézéchiel, suivez, est nettement séparé de la ville et n'a aucun contact avec le palais du roi comme c'était le cas à l'époque de Salomon. Voilà, c'est ça. Et il continue, ici, tout se passe comme si le roi avait perdu toutes ses prérogatives religieuses. Dieu règne sur son peuple et n'acceptera plus que quiconque s'interpose dans cette relation exclusive, fût-ce un roi. Tout l'espace de la montagne sera réservé à Dieu. Il y règne désormais sans partage. Le nouveau temple inaugure un ordre nouveau. Voilà, et ça continue. Ah. Ok. Maintenant, le Seigneur, après avoir dit ce que nous venons de montrer, il continue. Quant à toi, l'homme, décris le temple aux Israélites, qu'ils aient honte de toutes leurs fautes et qu'ils examinent le plan de cette construction. Alors, on peut dire que le Seigneur demande à son serviteur Ézéchiel de demander au peuple de se repentir. Parce que le peuple, s'il était parti en exil, c'est parce qu'il a péché. Et le Seigneur de lui-même accepte de revenir. Mais il faut le changement. Voilà. Et le travail que Ézéchiel a vu, cette construction-là, doit maintenant montrer au peuple de Dieu l'importance qu'il y met à sa maison. Par conséquent, ils doivent changer de comportement. Qu'ils ne soient pas comme hier, mais qu'ils changent de comportement. S'ils sont vraiment hantés des actions qu'ils ont commises, présente-leur un croquis du temple avec la répartition des bâtiments, les entrées et les sorties, tous les plans d'ensemble, indique par écrit et met sous leurs yeux les lois et réglementations qui doivent y être appliquées, afin qu'ils puissent s'y conformer et les mettre en pratique. Et le dernier verset dit, voici la règle principale concernant le temple. Tout l'espace qui entoure au sommet de la montagne doit être considéré comme spécialement réservé à Dieu. Voilà. Tout ce que le prophète a vu, l'homme lui montrer, Ézéchiel a le croquis, et il doit montrer au peuple de Dieu ce croquis-là. Que voici le temple qui vient. Et ce temple n'accepte pas les gens rebelles. C'est un temple où habitera désormais le Seigneur. Par conséquent, il n'aime pas le péché, et le peuple doit vivre une vie sainte conformément à la parole de Dieu. Voilà encore une exigence qui est demandée à ce peuple. Dieu revient, mais il exige la sainteté. Voilà. Ça, c'est ce que nous pouvons, si vous voulez, résumer en peu de mots dans le passage lu. C'est ça. Je reviens, mais soyez saints, car je suis saint. Ah. Ok. Si quelqu'un a une autre chose à ajouter, nous pouvons le suivre. Sinon, nous pouvons lire ce que un frère ou une sœur, je n'ai pas regardé l'auteur, aujourd'hui c'est ce lundi, oui. Est-ce que maman Christine, qui avait fait la lecture?
Maman Jackie.
Maman Jackie, oui. Une autre maman. Oui, une autre maman peut lire le commentaire.
Oui, je peux lire, papa.
Mm-hmm.
Le titre, c'est le retour de la gloire de Dieu. Dieu revient
oui.
dans le temple que tu l'avais abandonné à la destruction, mais c'est un temple pour débarrasser du péché sous toutes ses formes. Dieu ne
c'est
change
ça.
Entre deux événements majeurs, la destruction et la restauration du temple, Dieu se manifeste de la même manière, démontrant ainsi qu'il est toujours le même et qu'il ne nous abandonne jamais définitivement. On ne peut que tomber en admiration devant une telle révélation, l'amour et de la présence, une telle révélation, l'amour et de la présence de Dieu. Pourquoi le temple avait-il été détruit? Le Seigneur fait visiter le temple à Ézéchiel et lui donne les raisons qui l'ont poussé à cautionner sa destruction. Quelles sont les abominations que commettaient les rois et les peuples? Dieu doit être sanctifié dans notre corps, son temple, mais aussi dans l'assemblée des croyants. Appel à la réponse. Le secret du temple nouveau ne sera révélé à la communauté des exilés que s'ils se repentent des abominations qui leur ont valu la déportation. Car ce temple nouveau est le programme de restauration spirituelle d'Israël et son rétablissement en tant que nation. Ils ne réussiront ce programme que s'ils permettent à Dieu de demeurer parmi eux par leur repentir. Prolongement, dans la présence éternelle de Dieu, aucun pécheur ne sera admis. Seuls ceux qui sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ et sanctifié par son sang. Amen.
Amen. Merci. Le commentaire ont été écrits par notre... Nous sommes à Ézéchiel.
Le frère Boni Joseph de la Côte d'Ivoire.
Oui. Boni Joseph de la Côte d'Ivoire. Merci. Bon. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons là. Dieu ne nous abandonne pas. Nous pouvons pécher. Oui. Il se retire. Ou il nous repousse. Mais son cœur est toujours là où nous sommes. Il revient. Mais ce qu'il nous demande est que nous puissions changer de vie. Lorsque nous changeons, à ce moment-là, il reste avec nous, en tant qu'individu et en tant qu'Église de Dieu. Voilà, c'est un message de joie, parce que la gloire de Dieu est rentrée. Mais l'exigence reste toujours la même. Soyez saints. Voilà. Merci. Ok. Alors, nous pouvons nous arrêter ici. Maman Christine, qui avait prié au commencement?
C'était Papa José.
De Paris. Cette fois-ci, nous demandons à une maman pour
donner un passage de demain.
Oui. Demain, nous allons lire le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 13. Et nous arrêtons au verset 27, c'est-à-dire du verset 13 jusqu'à la fin. Donc, nous terminons le chapitre 43 demain et nous allons rentrer au proverbe en faisant une escale dans le psaume. Voilà. Merci. Alors, je disais qu'une sœur puisse prier. Toutes les sœurs ont parlé.
La sœur Christine de Londres, parce que chez moi, il y a le monsieur là qui est venu travailler, il y a des bruits là-bas.
Allô, maman. Moi, Christine, si tu peux.
Dieu notre Père, merci. Merci de nous réunir encore aujourd'hui autour de ta table. Merci de nous parler, Seigneur, comme tu avais parlé à ton serviteur Ézéchiel. Aujourd'hui, tu nous parles encore, Seigneur. Seigneur, tu parles de la sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne te verra. Parce que, Seigneur, tu es notre Père, tu nous aimes. Nous péchons et chaque fois, Seigneur, tu reviens toujours à nous et tu veux que nous puissions nous repentir. Mais nous sommes toujours en train de nous entêter, ô Dieu. Aujourd'hui, tu nous as parlé, tu nous as donné ce message. Aide-nous, cher Saint-Esprit, afin que nous puissions aller le répandre partout. Que nous puissions parler à nos concitoyens, à nos frères et sœurs, à nos familles respectives. Que le Seigneur nous aime. Il aime le pécheur, mais il veut que nous puissions nous repentir afin d'être avec lui ce jour-là. Le Seigneur nous a rassuré qu'il revient bientôt, qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons nous repentir pour être avec lui dans la joie éternelle. Seigneur, merci. Nous qui t'avons connu, nous qui te suivons, nous sommes dans la joie de voir qu'il y a une grande promesse que tu nous as faite, que tu t'asseras au milieu de nous, nous ton peuple, Seigneur. Merci, Dieu bien-aimé. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, il y a ce camp public en Belgique. Ce camp va réunir tes enfants, Père. Et il y aura des messages, Seigneur, qui seront donnés par tes serviteurs. Et le message capital, c'est la repentance en vue de recevoir la vie éternelle, ô Dieu. Permets, Seigneur, que tous tes enfants qui sont impliqués dans la préparation, dans toutes sortes de préparatifs, puissent être animés des mêmes esprits. Seigneur, que le Saint-Esprit soit au milieu d'eux. Que toi, personnellement, tu es le pourvoyeur, tu puisses pourvoir tous les besoins, Seigneur, afin que rien ne puisse nous manquer en ce jour-là. Et tu te manifesteras personnellement comme tu t'es manifesté dans ce chapitre d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu ta gloire qui remplissait le temple. Et nous allons voir cette gloire remplir toute la ville de Verviers, Seigneur, ce jour-là. Tu descendras personnellement, Seigneur, pour opérer des signes et des prodiges, afin que le peuple qui est en Belgique sache que tu es Dieu. Oh Dieu, merci, Papa. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Nous remettons nos bien-aimés qui vont aller dormir, ceux de l'Europe entre tes mains, et ceux de la mer qui vont continuer encore la journée. Comme ta parole, Seigneur, est toujours d'actualité, le Saint-Esprit va leur révéler encore beaucoup plus de vérité lorsqu'ils vont méditer encore le soir. Et ensemble, Seigneur, si tu ne reviens pas ce soir, nous allons encore nous retrouver demain à tes pieds pour pouvoir partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous pouvons nous arrêter ici. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Merci.
Amen.
Amen. Amen. Amen.